d'emploi. Mode d'emploi.
Vous êtes sur 106.3, Fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et nous recevons Jean-Marie Arribé, économiste et ancien coprésident de l'association ATTAC et président actuel de son conseil scientifique, qui viendra de nous parler de cet argent magique qui semble tomber du ciel en remontant aux fondamentaux, finalement, d'où vient la monnaie et à qui doit-on la dette qui est en train de se construire. Mais avant de parler avec notre invité, nous allons écouter les chroniques d'actualité de Jean-Marc. Alors, nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 mai, bien sûr. Vous êtes en train de nous entendre en direct sur Fréquence Paris Pluriel, mais l'émission est enregistrée le 9 mai. Alors, à toi Jean-Marc qui nous parle des années de plomb.
Et oui, les années de plomb, vous savez, c'est cette fichue décennie qui commence à la fin des années 60 et qui va s'étirer jusqu'au début des années 80, avec des mouvements terroristes d'extrême gauche, de différentes philosophies et tendances qui se sont développées en Italie, comme les Brigades Rouges, en France, comme Action Directe, en Allemagne, avec la Rote Armee Fraktion, ou surnommée Bande à Bader, en Belgique, avec les CCC, Cellules Communistes Combattantes, et encore d'autres groupes moins connus. C'est également la période de la résurgence donc de milieux d'extrême droite qui vont provoquer cette réaction de l'extrême gauche avec des luttes extrêmement dures, notamment en Italie ou autour de l'Espagne franquiste. Ces groupes réagissent donc d'abord à des dictatures comme celle de Franco, et avec ses nombreuses exécutions dans les années 60-70 des opposants, ou à la résurgence sur fond de luttes sociales et anticapitalistes du fascisme comme en Italie. L'affrontement entre les Noirs et les Rouges, les fascistes contre les communistes, fera de nombreux morts en Italie en particulier, qui connaît une violence très importante, ponctuée d'attentats fascistes, comme l'attentat de la gare de Bologne en 1980, ou d'attentats brigadistes, comme l'enlèvement et l'exécution de l'ancien Premier ministre et secrétaire de la démocratie chrétienne, Aldo Moro, en 1978. En Italie, cette flambée de violence, qui remonte aujourd'hui à plus de 40 ans pour l'essentiel, continue de diviser les Italiens et leur classe politique. Pendant ces années de plomb, l'Italie s'est en effet dotée d'un arsenal juridique d'exception qui a conduit à de nombreuses arrestations douteuses et à des condamnations parfois aléatoires, voire arbitraires, souvent sans preuve ni aveu. Cette situation et ces procédures d'exception posaient tant de questions que la France, qui accueillait sur son sol plus de 300 réfugiés italiens, a pendant longtemps refusé toute extradition, ce qu'on appelle la jurisprudence Mitterrand. Cependant, le pouvoir italien, profitant de la droitisation des gouvernements français, a continué d'exiger ces extraditions de certains des exilés en particulier. Durant le mois d'avril de cette année, 10 Italiens furent donc arrêtés par la police française et risquent à nouveau l'extradition. Cette situation pose de nombreuses questions. La première, pourquoi la prescription, pourtant reconnue par les droits européens et français, ne s'applique-t-elle pas? Et pourquoi le gouvernement français se prête-t-il, plus de 40 ans après les faits, à cette mascarade? Deuxième question, pourquoi l'Italie, qui a absous la plupart des terroristes fascistes, certains ayant même fait de belles carrières dans la politique et les affaires, continue-t-elle de pourchasser avec tant de constance les anciens brigadistes? Le temps n'est-il pas davantage celui des historiens que celui des juges? Bref, si les personnes arrêtées ne sont pas toutes des enfants de cœur, loin de là, la France et l'Italie, alors que l'on est à la veille d'une des pires crises économiques et sociales depuis longtemps, alors que le terrorisme islamiste, lui, est bien réel et reste une menace constante, n'ont-elles rien de mieux à faire que de vouloir régler les comptes des années de plomb avec 40 ou 50 ans de retard?
Et on continue avec après les années de plomb, Jean-Marc va nous parler d'un vieux mot, le Front républicain, parce que le Front républicain, Tintin.
Eh oui, ce joli Front républicain avec lequel on nous rebat les oreilles à chaque élection depuis que Le Pen papa ou Le Pen fifi font des scores déshonorants pour la France à chaque présidentielle, eh bien ce Front républicain a encore fait parler de lui, mais peut-être à l'envers. La semaine encadrant le 1er mai et sa grande fête des travailleurs a fait tomber bien des masques sans qu'il soit question pour une fois de Covid. Cela tient en trois noms, Ciotti, Muselier, Mariani. Trois situations, trois raisons de dégoût. Mariani, l'ancien de l'UMP, passé au FN, devenu RN, qui est tête de liste Rassemblement National pour la région PACA. Ciotti, de cette même région, qui déclare « La différence entre le RN et nous, c'est que nous avons la capacité de gouverner ». Muselier, les Républicains Bontain, qui vient de fusionner ses listes avec celles de LREM, pour ces mêmes régionales. Bref, PACA, la terre de Pagnol et de Mistral, nous offre un beau résumé de ce que sont LREM, LR et RN. Trois avatars d'une même pensée réactionnaire, confite et antisociale, tellement interchangeables qu'ils peuvent passer d'un parti à l'autre comme Mariani, qu'ils avouent avoir les mêmes idées mais simplement une différence de capacité technique pour gouverner comme Ciotti, et qu'ils sont tellement proches qu'ils peuvent fusionner leurs listes comme Muselier. Tous les élitocrates dominants qui spéculent sur un éventuel front républicain anti-Le Pen pour 2022 devraient peut-être revoir leur classique et leur logiciel, comme ils le disent, à longueur de temps, comme leur certitude, et s'apercevoir qu'il y a d'ores et déjà un front anti-républicain qui se forme, composé justement de LREM, LR et RN, dont le rêve commun est d'asservir le pays au moyen d'une police transformée en milice qui leur donnerait la possibilité de poutiniser tranquillement la France. Ça fait rêver.
Voilà, la description parle l'extrême qui s'étend de Jean-Marc. Mais on va continuer sur les élections, parce que tu te poses une question, Jean-Marc. Où sont-elles passées, ces élections ?
Alors justement, ces mêmes médias qui nous rebattent les oreilles minute par minute, seconde par seconde, de toutes les péripéties autour du Covid jusqu'à la nausée, pour la seconde fois depuis un an, eh bien, l'épidémie va les empêcher de voir les élections et va empêcher tout débat concernant les projets régionaux et départementaux pour lesquels nous sommes appelés à voter dans un mois, en juin. Ce qui annonce des choses un petit peu problématiques. Première chose problématique, c'est une abstention massive, peut-être encore plus massive que celle des dernières élections municipales. Que donc ces élections avec abstention massive, pas de campagne électorale ou très peu, ça va faire quoi ? Ça va donner une prime inespérée aux sortants, comme pour les municipales, quel que soit leur bilan. Même des gens qui ont des bilans calamiteux risquent d'être réélus parce qu'ils seront les seuls à avoir une certaine surface médiatique dans cette non-campagne qui commence comme celle de, comme la non-campagne des municipales que nous avons eues l'année dernière. Au bout du compte, cela donnera des élus fort peu représentatifs, ce qui, évidemment, est excellent pour la gestion du pays et la vivacité de la démocratie. Mais, encore une fois, ça n'a pas l'air d'inquiéter donc ces mêmes éditocrates dont je parlais dans la chronique précédente, qui sont déjà entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2022 et dont la seule préoccupation est de pilonner tous les candidats qu'ils ont éliminé d'office au premier tour pour savoir s'ils appelleront à voter Macron contre Le Pen au deuxième.
Alors on change de sujet, on parle maintenant du Covid. Et tu as un titre qui est assez rigolo, c'est « Il y a bon Covid ».
Eh oui, il y a bon Covid. Pendant que je prends la suite, pendant qu'on nous rebat les oreilles à longueur de temps avec des chiffres qui ne veulent pas dire grand-chose sur le Covid, eh bien il y a des chiffres sonnants et trébuchants qui tombent dans la poche, évidemment, de ceux qui n'en ont pas besoin. Après le régime grossissant des labos, les dividendes records des actionnaires et la croissance indécente des fortunes des milliardaires, voici maintenant les bonnes affaires des cliniques privées grâce au Covid. Le gouvernement français, faute d'avoir embauché et augmenté les soignants de l'hôpital public, a été obligé de solliciter le privé, ce que ce dernier a fait avec grand plaisir, car il en a tiré grand bénéfice. Le système mis en place est fort simple. Une clinique privée accepte de mettre à disposition des chambres Covid. Pour y arriver, elle reporte nombre d'interventions, comme dans le public. Elle met en partie une partie de ses médecins et personnels au chômage partiel, ce qui fait une baisse de la masse salariale, non négligeable. L'État, plus généreux avec les cliniques qu'avec ses soignants, s'engage, dans ce cas, à compenser les pertes. Comment compense-t-on les pertes ? On calcule ces pertes sur l'activité de la clinique à la même période l'année d'avant. L'affaire est déjà bonne. L'affaire devient excellente lorsque, faute de patients Covid, une clinique ne reçoit pas de patients. Des dépenses donc réduites à presque rien et une indemnisation royale pour aucun patient Covid. Qui dit mieux ? Dans de nombreux cas, les lits sont restés vides et les patients reportés de plusieurs mois sont morts faute de soins et d'examens. Encore une illustration de la gestion parfaite et humaine de la santé en France, mais ne nous plaignons pas, car si le bilan sanitaire est des plus discutables, le bilan financier, lui, est excellent.
Allez, une petite dernière chronique pour la route, les rats.
Oui, alors justement, ça prend la suite, là, c'est très bien enchaîné. C'est une communication d'un organisme peu connu mais qui gagne à l'être, c'est l'OIRSL, Organisation internationale des rats et souris de laboratoire. L'OIRSL tient à remercier, à l'occasion de l'épidémie actuelle, les humains qui se sont portés volontaires par millions pour servir de cobayes aux différents vaccins, ce qui a sauvé la vie à des milliers de rongeurs de labo.
C'était la petite note d'humour de Jean-Marc, bien entendu. Alors, on enchaîne sur une dernière chronique d'actualité avant de passer à notre invité. Il s'agit d'une chronique qui est rebondie sur la marche climat qui a eu lieu dimanche dernier et où ATTAC, par exemple, était appelée à marcher pour parler du vote de la loi climat cette semaine. Mais justement, Gaël, tu vas nous expliquer pourquoi et comment les grosses entreprises ont torpillé la loi climat.
Oui, quand Macron a lancé la Convention citoyenne pour le climat, il leur a dit « Allez-y, on reprendra sans filtre vos propositions ». Et pourtant, dimanche dernier, des milliers de personnes ont défilé contre cette loi climat, tellement l'écart est grand entre les propositions des citoyens et la loi adoptée le 4 mai. Alors comment on en est arrivé là? Les propositions de la Convention n'avaient rien de révolutionnaire, mais elles touchent à un vaste ensemble d'intérêts économiques et les acteurs concernés se sont mobilisés vigoureusement pour torpiller ces propositions. Une mobilisation qui a été analysée récemment dans un rapport de l'Observatoire des multinationales. Alors comment ces entreprises s'y sont prises? D'abord, elles ont occupé le débat public avec cinq axes de communication. Premièrement, la négation ou la minimisation de leurs responsabilités. Deuxièmement, la victimisation, on dénonce l'agribashing, l'aviation bashing, l'auto-bashing. Troisièmement, des arguments économiques sur la compétitivité, les risques de perte d'emploi, de hausse de prix pour les consommateurs. Quatrièmement, la promesse de solutions technologiques qui régleront le problème un jour. Et cinquièmement, la disqualification des citoyens de la Convention qui sont rejetés dans le camp de l'ignorance et de l'écologie punitive. Et la crise sanitaire a été une aubaine pour ces industriels puisqu'elle a frappé de plein fouet les secteurs qui précisément étaient ciblés par les propositions de la Convention, comme l'aérien et l'automobile. Ce qui leur a permis de dire « Regardez, c'est la catastrophe, on ne peut pas aller trop loin dans les réformes ». Une position qui est résumée par un chroniqueur de TF1, François Langlais, qui disait « Ce que vise la Convention, c'est revenir à l'économie du confinement à perpétuité ». Alors contre, je cite, « l'écologie punitive et populiste », les industriels opposent la foi dans le progrès et dans la technologie pour résoudre le problème du climat. C'est pour ça que ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler de voitures électriques et d'avions à hydrogène. Et le plan de relance tombait à pic puisque ça permettait de réclamer des sous pour financer ces solutions. Et d'ailleurs, l'Institut d'études patronales Rexecode a publié quelques jours avant la présentation du projet de loi une étude selon laquelle les mesures du plan de relance étaient largement suffisantes pour que la France atteigne ses objectifs climatiques. Donc pourquoi s'embêter à faire une loi climat qui embête tout le monde? Alors dans la panoplie de communication de ces gens-là, il y a le registre outrancier qui consiste à présenter la Convention citoyenne comme des Khmers verts. Pour ça, il a suffi de lâcher les chiens dans la presse de droite et on a entendu parler de populisme écolo, d'écologie punitive, de radicaux décroissants, de partisans de l'effondrement, de tribunal de l'inquisition écologiste. Et dans ce registre, j'aime beaucoup Olivier Babot, qui est chroniqueur à Figaro Vox et président de l'Institut Sapiens, un think tank néolibéral et pro-technologique. Un think tank, c'est une boîte à idées qui produit des études. Alors pour lui, la convention aurait été, je cite, « détournée en porte-voix des élucubrations écolo-totalitaires les plus folles. Le projet est l'abolition du droit de propriété et la détermination par des fonctionnaires de l'État vert de la façon dont vous devez chercher le bonheur. » Et dans un tweet, il poursuit « Les propositions de la Convention citoyenne transformeraient la France en Venezuela en 2 mois. » Et ça va plus loin. Pour l'inénarrable Brice Couturier, un chroniqueur multiplateau, la Convention citoyenne aurait été manipulée. La présidente de la FNSEA, Christine Lambert, a déclaré même « Je me dis que ce ne sont pas eux qui ont écrit leurs propositions, tellement ils avaient du mal à répondre à nos questions. » Alors il est intéressant de noter que les médias qui diffusent ces analyses tout en finesse sont tous la propriété de grands groupes industriels comme Dassault ou Vivendi, qui sont directement visés par les propositions de la Convention. Et par une pure coïncidence, beaucoup des journalistes et des chroniqueurs qui ont pris position contre les préconisations de la Convention cumulent leur travail régulier avec des prestations rémunérées dans l'industrie. Par exemple, Philippe Manière, ancien journaliste et toujours chroniqueur, lui aussi multiplateau, très en verve contre la Convention, et par ailleurs, directeur du cabinet de relations publiques Vae Solis, qui compte parmi ses clients Air France, Vinci, Nissan, EDF ou encore Total, ce qu'il oublie de rappeler quand il fait ses chroniques. Alors tous ces gens, ce sont les chiens de garde habituels qui n'ont aucune expertise, mis à part celle du verbe. Mais pour contrer plus sérieusement les propositions de la Convention, les milieux d'affaires ont aussi mobilisé leurs experts. Et là, on retrouve tous les think tanks néolibéraux, l'Institut Montaigne, la Fondation pour l'innovation politique, l'IFRAP, l'Institut Sapiens, ce qui n'est guère étonnant quand on sait que ces think tanks sont financés par les grandes entreprises. Alors ce qui est gênant, c'est que ce sont des fondations souvent reconnues d'utilité publique, donc elles bénéficient à la fois de subventions de l'État et du régime du mécénat qui permet aux entreprises qui leur donnent de l'argent de défiscaliser leurs dons. Donc ça permet de faire du lobbying avec une apparence d'objectivité quasi scientifique, tout en étant financé en grande partie par de l'argent public. Alors plus grave que ça, une partie du monde universitaire a collaboré à cette propagande. À l'université de Montpellier, par exemple, la chaire Pégase, créée en 2019, est financée par l'industrie aéronautique, et là encore par une pure coïncidence, sa toute première étude a été consacrée à minimiser l'impact environnemental du transport aérien. Alors tout ce que je viens de décrire, c'est la partie
C'est ce qu'on
publique.
appelle Pégase de France.
Pégase de quoi?
Pégase de France.
Merci. Tout ce que je viens de décrire, c'est la partie publique de l'offensive. Mais il y a aussi du lobbying plus discret et tout aussi efficace, notamment l'entre-soi entre les industriels et les responsables politiques et administratifs chargés de les réguler. Ces gens-là se côtoient régulièrement dans des structures de concertation ou de régulation. Ils ont les mêmes profils sociaux et professionnels, ils ont fait les mêmes écoles. Bref, ce sont les mêmes, notamment grâce aux portes tournantes, c'est-à-dire les allers-retours entre public et privé. On connaît par exemple Luc Chatel, ancien ministre, qui est aujourd'hui patron du lobby de l'automobile. Et pour entretenir cet entre-soi, les cabinets de relations publiques organisent des rencontres. Il y a eu par exemple les États généraux de la communication en novembre 2020, qui regroupaient des industriels et des décideurs pour convaincre les politiques de ne pas toucher à la publicité. Une réussite, selon la présidence Davas, qui dit: Nous sommes parvenus à convertir les politiques. Et on le voit très bien dans la loi climat. La société MEM Conseil a organisé à partir de juin 2020 une série de rencontres encore entre élus et industriels autour des thèmes de la transition. Et une de ces rencontres, par exemple, sur l'accélération écologique en septembre, était financée par BASF, leader de l'agrochimie. Et j'imagine que BASF a financé cette rencontre de manière tout à fait désintéressée. Alors en fait, dans La République en marche, le lobbying est presque inutile parce que les lobbies sont déjà dans le gouvernement. Le ministre des Transports, Djebbari, qui vient du milieu de l'aviation, s'oppose à l'aviation bashing. Et une note de la Direction générale de l'aviation civile a opportunément évalué le coût de l'éco-contribution sur les billets d'avion à 3 milliards d'euros et 70 000 emplois. Le ministre de l'Agriculture, lui aussi, s'oppose à, je cite, une écologie de l'injonction. Et une note de son ministère a descendu la proposition d'une redevance sur les engrais de synthèse. Elle critique le manque de pertinence de cette proposition et ses risques pour la compétitivité de notre agriculture. Alors dans les deux cas, ces études ont été contestées par de vrais experts, à la fois pour leur méthodologie qui était apparemment assez rudimentaire, et pour la non prise en compte des bénéfices environnementaux et économiques associés aux propositions. Alors pour paraphraser un slogan fameux, on pourrait dire lobby partout, écologie nulle part.
On remercie Gaël pour cette analyse fine de nos médias et de tout ce que l'on peut entendre et réentendre et réentendre et réentendre dans les médias. Alors on va écouter une chanson qu'on entend moins dans les médias. On va écouter Zoufris Maracas qui nous parle de demain. Et si demain?
De moi, qui me font étranger de toi.
Fréquence Pâques Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATAC.
Et nous recevons aujourd'hui Jean-Marie Arribé, donc docteur en économie, agrégé en sciences économiques et sociales, maître de conférences honoraires à l'université. Il a été coprésident d'association ATTAC pendant plusieurs années et il copréside depuis 2014 le conseil scientifique de l'association. Il a créé et anime aujourd'hui la revue Les Possibles et c'est justement à partir d'un article dans cette revue que nous le recevons pour parler de l'argent qui semble pleuvoir en ce moment. En effet, depuis la crise mondiale due au Covid, les grands principes d'austérité budgétaire ont été oubliés, mis de côté. Et même les pays les plus libéraux économiquement, à l'image des États-Unis, lancent des plans d'investissement massifs pour sauver ou relancer leur économie. Certains parlent d'argent magique. D'autres redoutent le remboursement d'une dette qui pourrait plonger l'économie future dans une crise encore plus forte. Alors, on va partir sur une première question qui paraît assez folle, mais finalement qu'on se pose là avec cette création massive d'argent. Alors Jean-Marie Arribé, la monnaie finalement, d'où vient-elle ?
Bonjour, bonsoir. La question que vous posez vient à la suite d'une douzaine d'années environ, depuis la crise de 2007-2008 précisément, et puis aggravée par la crise sanitaire de 2020-2021. La question est maintenant au centre des discussions économiques, politiques, parce qu'effectivement, la quantité de monnaie qui a été injectée dans les économies, sur les marchés financiers, ne manque pas de soulever la curiosité au moins et le plus souvent l'inquiétude. Alors, pour comprendre tout cela, je pense qu'il faut dire un mot de ce qu'est la monnaie. Avant de dire d'où elle vient, qu'est-ce que c'est que la monnaie ? Bon, tous les manuels d'économie vous disent que la monnaie est un instrument qui sert à faciliter les échanges économiques. C'est une vue extrêmement restrictive de la monnaie. Parce que, aussi loin qu'on remonte dans l'histoire humaine, et plusieurs millénaires en arrière, on s'aperçoit, et les anthropologues nous l'ont bien montré, que la monnaie est une institution de la société, une institution sociale, au sens propre du terme, qui sert à faciliter tous les échanges sociaux et non pas simplement les échanges économiques. Et on s'aperçoit aussi qu'avant d'être un instrument d'accumulation privée, comme elle l'est dans le capitalisme aujourd'hui, avant cela, elle est aussi un bien public, un bien commun, on va dire tout à l'heure. Un bien public, donc objet privé, mais aussi objet public. Et donc, c'est cette double forme, cette ambivalence même, on peut dire, qui fait l'originalité de la monnaie. Et si on garde cela en tête jusqu'à la fin, on va pouvoir comprendre comment elle est créée et à quoi elle sert quand elle est créée ou à quoi elle ne sert pas. Parce que c'est ça qui va être l'une des discussions que nous allons avoir. Donc, d'où elle vient ? Alors, pour le dire très très simplement, la monnaie est injectée dans les circuits économiques à l'occasion des crédits qu'accorde le système bancaire à tous les agents économiques, que ce soit les ménages, que ce soit les entreprises ou l'État, ou les collectivités publiques, on va le voir tout à l'heure. Donc à l'occasion de l'octroi de ces crédits, le système bancaire, je veux dire les banques ordinaires créditent les comptes des clients qu'elles ont auprès d'elles. Mais au-dessus de ce système bancaire ordinaire, il existe ce qu'on appelle une banque centrale, que en première approximation, on peut dire c'est la banque des banques, parce que comme il y a une multitude de banques ordinaires, les crédits qu'elles accordent à leurs clients, ces crédits servent à effectuer des virements pour d'autres agents économiques qui sont installés dans d'autres banques. Et donc, à la fin de chaque journée ou même à chaque instant, les banques ont entre elles des engagements réciproques qu'elles soldent auprès de la banque centrale, parce qu'elles ont chacune eu un compte à la banque centrale et elles créditent ou débitent leurs comptes respectifs pour solder les engagements que les agents économiques à un échelon plus bas ont pris dans les opérations courantes. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la monnaie donc, est introduite à l'occasion de l'octroi d'un crédit et un crédit, c'est quelque chose qui est à double face, c'est-à-dire que c'est une créance, mais aussi c'est une dette. Donc, l'envers d'un crédit étant une dette, la monnaie est toujours injectée à l'occasion de la création d'une dette. Et il ne faut pas s'étonner de ce phénomène-là, hein, ce qui veut dire qu'on ne va pas tout à l'heure s'insurger contre le développement de la dette si cette dette est destinée à financer des choses qui sont utiles à la société. Donc, la création de monnaie par l'octroi des crédits se fait à partir de rien, si l'on peut le dire de cette manière-là, mais ce phénomène-là est souvent vu de manière péjorative, de manière défavorable, alors qu'il n'y a rien d'étonnant à cela. La capacité du système productif à répondre aux besoins qui sont à anticiper lorsque l'on octroie des crédits, cette capacité du système productif suffit à équilibrer les comptes, si l'on peut parler ainsi, équilibrer les comptes puisqu'on a injecté du crédit, mais un supplément de richesse va être produit qui va équilibrer la création de monnaie qui a été faite auparavant. Donc voilà d'où vient la monnaie. Alors, ce que nous allons étudier dans un instant, c'est que, comme je l'ai dit, le système bancaire, il peut octroyer des crédits aux collectivités publique et donc à l'État. Et ce qui s'est passé au cours de l'année écoulée, mais le phénomène avait déjà été mis en œuvre dans la décennie précédente, depuis la crise de 2007-2008, je vous l'ai dit, les banques centrales ont racheté sur le marché de l'occasion, sur le marché secondaire des obligations publiques, les banques centrales ont racheté en grande quantité les titres de dette que les banques ordinaires ou les autres institutions financières comme les fonds de pension, les compagnies d'assurance détenaient, de façon à pouvoir faciliter l'appel au crédit, les emprunts donc des États qui avaient besoin de financer des dépenses que les crises successives avaient aggravées. Bon, voilà pour expliquer le mécanisme de base de la création de monnaie. Dans la dernière année où les banques centrales, et notamment notre banque centrale, la Banque centrale européenne, a absorbé une quantité impressionnante de titres publics, les néolibéraux ont souvent désigné ce phénomène comme un phénomène que l'on appelait autrefois de la planche à billets. Donc, en attirant l'attention qu'il y aurait un risque de désagrégation de l'économie par une trop grande abondance des crédits qui auraient été octroyés à cette économie. Le problème, et déjà la première critique que l'on peut faire à cette vision-là, est que lorsque les banques centrales, et lorsque notre BCE, Banque Centrale Européenne, rachète aux banques ordinaires les titres publics que celles-ci détiennent, les titres avaient été émis à l'occasion d'un prêt aux États, à l'État français ou autre. Donc, à cette occasion-là, il pouvait y avoir eu création de monnaie. Mais lorsque la Banque Centrale rachète aux banques ordinaires les titres que celles-ci détenaient, il n'y a pas d'ajout supplémentaire de monnaie dans l'économie. Pourquoi ? Parce que la banque centrale crédite les comptes des banques ordinaires, donc il y a de la monnaie qu'on appelle centrale qui est créée, mais qui ne se retrouve pas automatiquement dans les circuits économiques. Pourquoi ? Parce que les banques ordinaires ne facilitent pas le crédit qu'elles accordent à leurs clients ménages, entreprises, par exemple, s'il n'y a pas de demande d'investissement à la hauteur des masses énormes que la Banque Centrale Européenne crédite sur leur propre compte. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre à ce stade-là, c'est-à-dire qu'il y a la masse monétaire qui circule dans l'économie entre les agents économiques, ménages, entreprises, collectivités publiques, et la monnaie qui reste sur les comptes des banques à la Banque centrale quand celle-ci leur rachète les titres publics qui avaient été mis auparavant sur le marché primaire, en quelque sorte, sur le premier marché des obligations d'État. Donc voilà le mécanisme de création de monnaie présenté le plus schématiquement possible dans la situation où nous nous trouvons. Alors, la question qu'il faut maintenant examiner, c'est pourquoi pourquoi l'économie a besoin d'être financée de la sorte par l'octroi de crédit qui en introduit une quantité de monnaie nouvelle dans le circuit de l'économie. Pourquoi ? Eh bien, c'est là où la première difficulté un peu conceptuelle intervient, mais qu'on va dépasser, j'espère, de manière assez facile. Lorsque un individu, par exemple un ménage ou plus souvent une entreprise, décide de faire un investissement, elle peut puiser dans les réserves qu'elle a, dans les bénéfices antérieurs qu'elle a mis en réserve, dans son épargne en quelque sorte, de la même façon qu'un ménage qui veut acheter un appartement peut puiser dans son épargne et compléter cette épargne, entre l'entreprise de la même manière, par un appel éventuel à un emprunt bancaire ou pour une entreprise en faisant appel à des capitaux nouveaux qui vont grossir ses capitaux propres. Donc, les entreprises peuvent s'autofinancer, en partie du moins, pour payer leurs investissements. Est-ce que ce raisonnement est transposable au niveau de l'État ? Non, parce qu'au niveau macroéconomique, comme on dit dans le jargon, dans le vocabulaire courant de l'économie, au niveau macroéconomique, le raisonnement du niveau microéconomique ne s'applique plus. Pourquoi ? Parce que lorsque la collectivité dans son ensemble veut engager un investissement au niveau de l'ensemble de l'économie, donc un investissement net sur le plan macroéconomique, l'épargne existante ne suffit pas. Il faut absolument un accompagnement monétaire, c'est-à-dire une anticipation par l'ensemble du système bancaire du supplément de richesse globale qui sera effectué. Et c'est ça qui est l'un des points les plus compliqués à comprendre dans ces mécanismes monétaires. Je vais essayer de prendre l'exemple suivant. Si les entreprises décident d'investir et d'embaucher, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont payer des salaires pour les salariés qu'elles vont embaucher, et puis elles vont acheter des équipements à d'autres entreprises qui fabriquent des moyens de production. Et puis les entreprises qui fabriquent ces biens d'équipement vont faire pareil, elles vont embaucher, donc payer des salaires, et vendre ensuite les équipements qu'elles auront fabriqués. Donc supposons qu'elles aient globalement mis en circuit par exemple, des salaires et des achats de moyens de production pour une somme qu'on va appeler A, une somme d'argent qu'on va appeler A. Si elles réussissent à vendre les marchandises qu'elles ont produites, à la fois les biens de consommation que les salariés vont acheter et les moyens de production que les entreprises elles-mêmes et les autres vont acheter, elles vont récupérer les avances en salaire et en achat de moyens de production qu'elles avaient faites. Qu'elles avaient fait. Comment, dans ce cas-là, pourraient-elles récupérer une somme d'argent plus importante que ce qu'elles ont lancé dans le circuit économique ? Si elles récupèrent tous les salaires consommés, si elles récupèrent les sommes correspondant à leurs achats de biens d'équipement, elles rentrent dans les frais qu'elles ont engagés, où se nicherait le profit monétaire ? Il n'y aurait pas de profit si elles ne faisaient récupérer les sommes d'argent qu'elles avaient avancées. Il n'y aurait pas de surplus à l'échelle de la société si toutes les entreprises ne faisaient que récupérer les sommes qu'elles avaient avancées. Où est le miracle ? Comment se fait-il qu'au-delà des sommes récupérées et engagées auparavant, elles réalisent un profit monétaire si elles vendent des marchandises ? Eh bien, parce que au niveau macroéconomique, au niveau global de l'économie, il y a eu une anticipation par le secteur bancaire que l'investissement nouveau qui sera réalisé fera naître un surplus de richesses. Et donc, c'est cette anticipation par la création de monnaie qui est obligatoire à l'échelle de l'ensemble d'une économie pour qu'un supplément de richesse soit produit et que donc, dans un système capitaliste, ce supplément de richesse produit se transforme en profit monétaire. Et donc, c'est ça qui fonde le différent fondamental entre les économistes orthodoxes et les économistes hétérodoxes, parce que le raisonnement que je viens d'essayer de vous expliquer, eh bien, il a été émis par tâtonnements successifs. Depuis Marx, c'est Marx qui a eu le premier cette intuition qu'il fallait une avance monétaire pour financer l'investissement net au niveau macroéconomique, au niveau de l'ensemble de l'économie. L'intuition de Marx a été extrêmement bien approfondie par la révolutionnaire allemande Rosa Luxembourg au début du siècle, et leurs deux idées ont été complétées dans l'entre-deux-guerres par Keynes, économiste anglais, et par l'économiste polonais qui s'appelait Michał Kalesi. Et donc, aujourd'hui, on sait que sur le plan macroéconomique, contrairement à ce que racontent les économistes qu'on appelle néoclassiques, qui est assez synonyme de libéraux contemporains, contrairement à ce qu'ils racontent, eh bien, l'épargne constituée préalablement ne sert à rien pour prendre la décision d'investissement. Ce n'est pas de l'épargne préalable que l'investissement au plan global naît. À l'échelle d'une entreprise, oui, mais pas à l'échelle globale. Et donc, c'est la nécessité d'une avance monétaire, d'une création de monnaie pour accompagner le développement économique. Et pour l'instant, je n'introduis pas la discussion, on le verra à la fin, entre économie productiviste ou économie écologique. Pour qu'il y ait un supplément de richesse répondant aux besoins, il faut qu'il y ait une avance monétaire, une création de monnaie. Et donc, ça exige. Ça sera la conclusion tout à l'heure, ça exige que l'on contrôle démocratiquement la création de monnaie, que l'on contrôle l'ensemble des crédits accordés par le système bancaire et ensuite la politique monétaire que la Banque centrale mène. Et donc, c'est cette double obligation de contrôle du crédit accordé par les entreprises pour vérifier la qualité des investissements auxquels ces crédits sont destinés, parce qu'il ne s'agit plus d'investir de manière totalement aveugle pour continuer à produire des marchandises qui polluent, des marchandises qui défont le tissu social, des marchandises qui sont obtenues en exploitant la main-d'œuvre payée au lance-pierre dans les pays du Sud, etc., etc. La qualité des investissements donc doit être extrêmement soumise à condition, et lorsque la Banque centrale rachète les titres publics qui avaient été émis lorsque les banques ordinaires ont octroyé des crédits, eh bien la Banque centrale, elle aussi, doit contrôler la qualité des titres qui lui sont présentés à ce qu'on appelle le refinancement des banques.
Alors, avant de passer à la deuxième partie, donc, on va faire une petite pause musicale. On écoute un petit montage sur la dette. Si vous cherchez le point commun entre Charles Trenet, La Fouine qui est du rap ou Nec Baron qui nous chante du rag, vous allez voir, finalement, c'est l'argent.
Il était couvert de dettes, de la tête aux pieds. Je lui venais faire la quête, tous ses créanciers. Et pour fuir ces personnages qui le torturaient, un jour sans faire de tapage, il partit pour la forêt. Au pied d'un arbre, il s'endormit, mais pendant qu'il rêvait, un oiseau tout en haut de lui, sur une branche lui chantait. Paye tes dettes, une, deux. Paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas. Paye tes dettes, une, deux. Paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas.
J'ai des dettes, des putains de dettes. Oh, j'ai des dettes, putains de dettes. Oh, j'ai des dettes.
La semaine prochaine, je te rembourse tout. On va m'avancer les sous. Je suis Ken, j'ai des dettes, j'ai des bugs, tout blanc, tout autour de la tête. J'ai tout fumé, je suis cuit. J'aurai plus de crédit. La tête remplie dans des histoires de bédo. J'ai tout fumé sans me soucier de ma conso. Je m'en tape, j'ai trouvé du taf. J'm'en bats les gueules, j'assume, je m'en tape. J'm'en tape, je ne tape,
Beaucoup de gens osent dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Que de l'amour et de l'eau fraîche suffit pour égayer leur cœur. À ces gens-là, je leur réponds de se réveiller, car il est l'heure. Tout le monde sait que sans argent, tu subis le pire des malheurs. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Nous vivons dans une société où l'argent est roi. Et dans ce pays, si t'as pas de caillasse, c'est comme si tu n'existais pas. Voilà pourquoi certaines personnes sont prêtes à faire n'importe quoi pour obtenir quelques bouts de feuille que l'on appelle Jean A. Certaines donnent leurs fesses pour avoir quelques pièces. D'autres font la mendicité pendant plusieurs heures d'affilée pour qu'à la fin de la journée ils puissent acheter de quoi manger. D'autres préfèrent aller pétard ou aller faire des cages brassées. Soit ça, ou soit devenir clochard. C'est soit ça, ou soit devenir clochard. Paye des dettes, paye des dettes, disait. Paye des dettes, paye des dettes, l'oiseau. Paye des dettes, paye des dettes. Oh, assez, ou je vais te fracasser. Et c'est ce qu'il fit à l'oiseau. Le coup, il tordit. Et le lendemain, dans tous les magasins et auprès de tous ses copains, il fit des dettes, il fit des dettes. Une, deux, il fit des dettes. Ah, ah, c'est mieux. Puis un soir, devenu vieux, très vieux, il mourut, couvert de dettes. C'est immoral, cette chanson-là. Ah oui.
106.3, fréquence par Pierriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des membres du PIAF et des journalistes de Attaque. Non, c'est l'inverse.
Et nous retrouvons notre invité Jean-Marie Arribé, économiste de l'association Attaque, entre autres, qui nous a expliqué d'où venait l'argent et qu'est-ce qu'était la nature de cette monnaie et des crédits. Et finalement, maintenant, c'est plutôt la question de la dette publique qui se pose et la question que tout le monde a en tête avec cette arrivée d'argent. Peut-on annuler la dette et y aurait-il d'autres moyens de financement, par exemple par la Banque centrale ?
Alors, on continue. Effectivement, là, merci pour vos deux questions nouvelles qui se posent au moment où, je le disais tout à l'heure, les banques centrales, et notamment la Banque centrale européenne, avaient depuis déjà une petite décennie continuellement baissé les taux qu'elle applique en direction des banques, qu'on appelle les taux directeurs, au point qu'aujourd'hui, ces taux étaient passés en dessous de zéro, étaient proches de zéro, voire passés en dessous de zéro. Ce qui avait conduit à une situation tout à fait nouvelle, inédite, la dette publique française, par exemple, a beaucoup augmenté au cours de l'année passée et au cours des dernières années, puisqu'on est... on a une dette publique accumulée au cours du temps qui équivaut à environ 115 à 116% du produit intérieur brut. Mais dans le même temps, la charge d'intérêt annuellement payée au titre de ces emprunts du passé n'ont cessé de diminuer. Donc on a, si vous voulez, une courbe de la dette qui monte et une courbe de la charge d'intérêt qui diminue. Et donc, si on a ça en tête, on va comprendre la discussion qui a eu lieu sur la première des deux questions que vous avez posées. Puisque la Banque centrale européenne a accumulé une quantité impressionnante de titres publics et son bilan, c'est-à-dire le document comptable qui retrace son activité, son bilan a presque doublé en quelques mois, puisqu'il atteint aujourd'hui 7500 milliards d'euros et qui est constitué pour moitié à peu près par les titres publics qu'elle détient. Et donc, cette dette accumulée pour partie donc dans les coffres de la Banque centrale, pourrait-on l'annuler ? Donc il y a eu cette discussion au cours de l'année écoulée, et même au cours des mois récents, qui ont été illustrés par deux tribunes contradictoires, proposant d'annuler cette dette publique détenue par la Banque centrale, et l'autre tribune, au contraire, s'y opposant. Alors, ce qui est assez caractéristique, c'est que les économistes de droite et les hommes politiques de droite, bien sûr, récusent toute idée, refusent d'en discuter, de l'annulation possible de la dette. En revanche, les économistes de gauche se sont fracassés sur cette question, se sont fracturés sur cette question. Et si vous recherchez dans la presse des deux derniers mois, vous trouverez les éléments principaux que je vais essayer de résumer là à ce micro. Le premier argument qui a opposé les tenants de l'annulation et les opposants était de savoir est-ce que l'État est obligé d'honorer sa dette comme tout emprunteur. Et ici se mêle un impératif d'ordre juridique et presque un impératif d'ordre moral. Mais Justement, il faut se rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer un raisonnement qui est valable à l'échelle d'un individu. Si je fais un emprunt, je vais devoir le rembourser. Si je meurs avant de l'avoir remboursé totalement, ce seront mes héritiers qui devront poursuivre le remboursement. Mais à l'échelon collectif, à l'échelon d'un État, ce n'est pas du tout comme ça que les choses se passent. Parce que d'une part, si moi je vais mourir, l'État, lui, ne mourra pas. Et donc, l'État, qu'est-ce qu'il fait quand sa dette arrive à échéance ? Eh bien, il la renouvelle et donc il réemprunte une fois qu'il a remboursé le prêt précédent. Et donc, on appelle ça faire rouler sa dette. Donc, ce premier argument pour s'opposer à l'annulation est souvent précisé en plaidant pour que les prêteurs ne soient pas lésés. Mais lorsque la Banque centrale détient des titres publics, les primo-prêteurs à l'État, que ce soit les banques ou bien les clients des banques par le truchement de leurs banques, ont déjà récupéré leur liquidité puisque la banque a apporté à la banque centrale, moyennant crédit sur son compte, a apporté les titres de dette en question. Donc, si la banque centrale annulait la dette publique qu'elle détient ou une partie de cette dette-là, eh bien, personne ne serait ruiné. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, la Banque centrale pourrait, sans dommage pour quiconque, annuler la dette qu'elle détient ou une partie de la dette, de cette dette-là. Il y a un deuxième argument qui est présenté par les opposants à l'annulation de la dette détenue par la banque. Si elle faisait cela, la Banque centrale, elle serait confrontée à un bilan déséquilibré, ayant rayé d'un trait de plume les exigences potentielles qu'elle détenait. Elle devrait donc, disent les opposants, être recapitalisée. Mais là encore, il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment bien compris, c'est qu'une banque centrale, ce n'est pas du tout comme une banque ordinaire qui, elle, a besoin de capitaux propres et qui a besoin, en cas de défaillance, d'être recapitalisée. Mais la banque centrale, par définition, elle a le monopole d'émettre la monnaie dans laquelle sont libellés les titres de dette qu'elle détient. Et donc, c'est ce qui fait l'originalité et la spécificité d'une banque centrale. Elle n'a pas d'exigence de rentabilité et elle n'a pas d'exigence de capitaux propres comme les banques ordinaires. Ça, c'était une deuxième discussion. Il y a une troisième discussion sur cette annulation. Est-ce que la Banque centrale perdrait son indépendance à l'égard de l'autorité démocratique si elle annulait sa dette publique ? Ben, c'est précisément ce qui serait susceptible d'être recherché, c'est-à-dire justement de perdre cette indépendance qui a été accordée à la Banque centrale européenne par les traités européens et qui nous empêche de contrôler la politique monétaire de façon démocratique. Donc, le principe selon lequel une monnaie est toujours une dette, comme je l'ai expliqué dans l'introduction, n'est pas remis en cause par le fait qu'on annulerait une partie de cette dette publique, puisque cette dette n'est plus une dette envers les opérateurs privés et souvent d'ailleurs des opérateurs spéculatifs sur les marchés financiers. En revanche, si le système productif est capable de répondre aux besoins que les investissements nouveaux permettraient de mettre en œuvre, il n'y a aucun risque d'inflation, en tout cas sur les biens et services. En revanche, le fait que la Banque centrale pratique des taux d'intérêt très bas, comme je vous l'ai dit, comporte un risque, dont on reparlera peut-être, le risque de voir des bulles financières se réaliser, se concrétiser sur les titres financiers. Et donc, il n'y a pas d'inflation aujourd'hui, on est plutôt en situation contraire, de déflation, il n'y a pas d'inflation sur les biens et services, par contre, le risque est assez grand de voir des bulles se former. Enfin, est-ce qu'il faudrait annuler la dette publique au moment où elle ne coûte rien. Et je vous disais tout à l'heure que les taux d'intérêt étaient maintenant tellement bas qu'effectivement, ça ne coûte rien. Mais ce phénomène-là, de taux très bas, il n'est pas du tout sûr qu'il se perpétue dans le temps. Et déjà, on voit sur les marchés financiers les taux d'intérêt sur les titres à 10 ans commencer à repasser au-dessus de zéro. La France et l'Allemagne ont emprunté au cours de la semaine précédente à 10 ans et elles ont dû payer, ces deux pays ont dû payer, s'engager à payer des taux d'intérêt dirais, qui dépasse 0%. Alors, pas beaucoup, mais déjà, on est peut-être sur la voie de la remontée des taux d'intérêt. Et donc, la banque, on ne sait pas du tout quelle sera la politique de la Banque centrale lorsqu'elle va voir se concrétiser ou se renforcer cette remontée d'intérêt. Donc, en résumé de cette première discussion que vous m'avez posée, il faut dire que l'objectif d'une annulation d'une partie de la dette publique, en tout cas celle détenue par la Banque centrale, c'est de tarir l'abondement du marché des obligations publiques dans le monde. C'est d'assécher ce marché-là, parce que c'est ce marché-là qui contraint les politiques économiques des États qui doivent faire face aux différentes crises que nous connaissons. Et donc, ça nous amène à la deuxième et dernière question, hein, à savoir, est-ce que la Banque centrale peut financer directement les dépenses publiques ? Alors, cette possibilité-là, elle est interdite par les traités européens qui sont le fruit d'une décision politique à un moment donné de notre histoire récente, hein, donc la fin des années, au cours des années 90, mais ça ne relève pas d'une loi naturelle. Si on peut donc tout à fait changer cette règle-là. Bien sûr, ça supposera un rapport de force différent de celui qui existe aujourd'hui entre les États et la société civile. Il n'empêche qu'au cours de l'année passée, au cours du premier confinement, il y a juste un an, la Banque d'Angleterre a jeté un petit pavé dans la mare. Alors bien sûr, la Banque d'Angleterre, ce pays, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, était à l'époque encore dans l'Union européenne, mais elle n'était pas membre de la zone euro. Et donc la Banque d'Angleterre avait toute autonomie. Eh bien, au mois d'avril de 2020, la Banque d'Angleterre a annoncé qu'elle financerait directement les dépenses publiques du Trésor anglais qui aurait pour but de remédier à la crise sanitaire, aux dépenses liées à la pandémie. Et donc, cette circonstance historique, en quelque sorte, est déjà un point tout à fait en faveur du changement de nos règles monétaires, mais à cette raison historique, circonstancielle en quelque sorte, s'ajoute une raison d'ordre logique et qui va nous ramener à ce que j'ai expliqué il y a quelques minutes, à savoir qu'au niveau de l'ensemble de l'économie, l'investissement net ne peut se financer que sur la base d'une création de monnaie nouvelle. Et lorsque l'économie est au ralenti ou presque à l'arrêt, dans la situation que nous connaissons, l'investissement privé défaille complètement ou a failli complètement ou quasi complètement. Et donc c'est l'investissement public qui doit pallier cette carence-là. D'où la nécessité pour financer ces investissements publics susceptibles de répondre à la crise sanitaire et à toutes les crises de manière générale, et notamment pour engager la transition écologique, eh bien ce financement nécessite de remobiliser la capacité de la Banque centrale à financer les dépenses publiques. Et donc, c'est ce qui concrétise ce que je vous disais tout à l'heure. Il s'agit d'une part d'assécher le marché des obligations publiques qui a été créé dans cette phase qu'on a appelée néolibérale pour restaurer la capacité de la collectivité de maîtriser la politique monétaire et cet outil essentiel que constitue la création de monnaie, dans le sens où la monnaie, je vous le disais tout à fait au début, est bien sûr un bien privé puisqu'elle sert malheureusement à l'accumulation du capital, mais elle est aussi un bien public. Et c'est la restauration de ce bien public, autrement dit de ce qu'on appelle aujourd'hui un bien commun, qui est la clé de voûte pour que la société puisse trouver les moyens de financer les énormes investissements de transition écologique et sociale qui seront nécessaires dans le proche avenir.
Eh bien, merci Jean-Marie pour cette démonstration et surtout cette perspective où finalement, encore une fois, le citoyen peut agir et peut remettre en cause des lois pour qu'on ne soit plus mangé par tous ces marchés financiers qui finalement détournent la monnaie pour qu'elle ne soit plus un bien public, mais comme tu l'as dit, qu'elle soit certainement autre chose. Et on l'a vu aussi avec toutes les procédures d'austérité que les gouvernements ont mis en place au nom de ces dettes. Voilà, on remercie tout le monde pour l'émission. On remercie donc Jean-Marie Haribé de l'association Attac de nous avoir fait cet exposé magistral. On remercie aussi pour les chroniques Jean-Marc et Gaël, ainsi que Claude à la technique. Et on se quitte en écoutant une petite chanson de fin, c'est Feu Chatterton, Compagnon.
Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Ouais, je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les